Beurre FM, les mots piégés du débat républicain, Pierre-Henri.
Les mots qui fâchent, les mots du vocabulaire politique, souvent mal connus, employés de manière inappropriée, instrumentalisés, sont nombreux. Ils se répètent et se buzzent en réseau, confortant posture et parti pris. Ils font débat et nous divisent. Ce sont les mots piégés du débat républicain. Ces mots, nous allons les déminer, les expliquer pour simplement vous permettre de mieux les connaître. Le mot du jour, ici décrypté, désobéissance. Et nous allons le faire avec Éric Thiers, historien, chercheur associé à Sciences Po, au CEVIPOF, auteur de nombreuses publications. Éric Thiers, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté d'intervenir sur l'antenne de Beurre FM dans le cadre de notre émission. Alors, désobéissance civile, c'est un terme qui est plus que jamais à la mode dans le vocabulaire politique, qui n'est pas nouveau non plus. Désobéissance aux traités européens, c'est ce que l'on a vu récemment dans la nouvelle alliance qui a été proposée par Jean-Luc Mélenchon avec la NUP. Mais c'est aussi des mouvements de la société civile, Extinction Rébellion, le mouvement écolo, qui sont des chantres de la désobéissance civile. Et alors, la question que j'ai envie de vous poser en entrée, c'est dans quelle tradition, dans quelle histoire, cette désobéissance s'inscrit-elle, notamment en France ?
Alors, vous avez raison de tracer une perspective historique parce que c'est un terme qui n'est pas récent, qui a connu une évolution ces dernières années, une sorte de renouveau, mais qui puise en fait dans des questions fondamentales de la politique, qui sont assez simples. Pourquoi accepte-t-on d'obéir aux lois ? Ce qui renvoie à une autre question tout aussi fondamentale, pourquoi souhaitons-nous vivre ensemble ? Et comment pouvons-nous vivre ensemble ? Alors c'est un questionnement très ancien, hein,
oui.
Chez les Grecs, chez Aristote, chez Platon, également au XVIIIe siècle avec Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat social. Comment les lois sont-elles créées ? Pourquoi accepte-t-on d'obéir à ces lois ? Et selon quel processus et jusqu'où accepte-t-on d'obéir aux lois générales ? C'est un mouvement qui a été marqué historiquement aussi au XXe siècle par des grandes figures comme Gandhi ou Martin Luther King dans des grands combats, dans des situations historiques où des droits fondamentaux étaient bafoués. C'est le contexte de la colonisation avec Gandhi et puis c'est le contexte d'un racisme quasiment d'État avec Martin Luther King. Et évidemment, et tout ça concernait le combat pour les droits civiques pour les Noirs américains.
Alors, ce que vous nous dites finalement, c'est, si j'entends bien, c'est que cette notion de désobéissance qui vient de loin, elle est aujourd'hui de la même nature que celle d'hier. Mais elle interroge tout de même notre rapport à la politique, à la démocratie, notre rapport au collectif. Alors, comment on articule tout cela ?
Alors elle est à la fois de la même nature et d'une nature assez différente, parce qu'il faut être conscient, et on y reviendra, que derrière ce discours autour de la désobéissance civile, il y a tout un projet idéologique qui est marqué à gauche, dans une gauche radicale, très contestataire du système capitaliste, libéral, et qui a construit un corps de doctrine extrêmement élaboré, et aussi des pratiques qu'on a vu émerger il y a 15-20 ans, avec, souvenez-vous, José Bové qui démontait un McDonald's à Millau avec les faucheurs de plants d'OGM dans les champs.
Et qui sont pourtant présentés comme un renouveau de la démocratie.
Bien sûr, c'est toute l'ambiguïté de ce mouvement. Il s'agit en réalité de critiquer la démocratie représentative telle qu'elle s'est construite à la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle, et qu'elle s'est développée largement au XXe siècle, de critiquer ce système démocratique au nom d'une démocratie qui serait plus réelle, qui prendrait plus en considération les citoyens dans leur diversité, dans leur aspiration.
Mais alors, qu'est-ce qui légitime aujourd'hui la désobéissance civile. Et alors, ça a l'air d'être une question philosophique niveau bac, mais dans quelle mesure la désobéissance est-elle un droit ? Je pense aux lanceurs d'alerte, mais aussi à d'autres situations.
Bien sûr, c'est un droit dans certains cas, par exemple les fonctionnaires, lorsqu'on leur impose un ordre manifestement illégal et qui compromet gravement l'intérêt public, n'ont pas respecté cet ordre. C'est une forme de désobéissance, mais c'est une désobéissance pour faire respecter la loi.
La résistance à l'oppression est dans l'histoire de ce pays depuis plus de 2 siècles.
Bien sûr, depuis la Révolution française, et on l'a même au sein de notre Déclaration des droits de l'homme. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'auparavant, on considérait que la démocratie telle qu'elle existait permettait de maintenir des équilibres entre les aspirations individuelles, l'idée de justice que chacun peut avoir, et le fonctionnement collectif, notre capacité à vivre ensemble. Aujourd'hui, ce qui est différent, et ce qui pour moi peut menacer la démocratie, c'est que chacun se considère, en quelque sorte, dans ces milieux désobéissants, comme porteur d'une morale qui lui est propre et qui est en même temps universelle, et qui le considère comme étant le seul gardien, sans s'intégrer dans une logique collective qui est une logique de compromis, de discussion avec les autres citoyens.
Oui, ce que vous nous dites, c'est que l'individu seul ne fait pas sens, il fait sens dans un collectif, et c'est ce collectif qui oblige évidemment au compromis.
Bien sûr, la démocratie, c'est le compromis. Et on confond parfois dans ces mouvements de désobéissance civile la morale et la politique. C'est-à-dire que moi, comme citoyen, je peux avoir une conception particulière de la morale, je peux considérer que tel ou tel acte est injuste, mais collectivement, peut-être que la société ne le considérera pas comme tel. Qu'est-ce qui doit prévaloir ? Est-ce que c'est la conception collective ou est-ce que c'est ma conception propre en tant que ce que j'ai appelé l'égo-démocrate, égo au sens égotique, égoïste d'une certaine manière, moi, et démocrate parce que je souhaite imposer mon point de vue à tous les autres d'une certaine manière.
Oui, mais en même temps, la désobéissance civile, ça fait aussi progresser dans un certain nombre de cas. Regardez tous les mouvements liés au climat. Si des mouvements assez radicaux n'avaient pas été présents sur la scène politique, peut-être que la conscience de ce problème et la réponse politique n'aurait pas été au bon niveau.
Bien sûr, et on peut tirer des exemples plus lointains. Je pense au droit à l'avortement, à l'opposition à la guerre en Algérie.
Oui.
Je pense aux mobilisations, par exemple, pour le droit au logement, qui se manifestent de manière non violente par des actes qui sont illégaux. Donc entendons-nous bien, je ne veux pas dire que la désobéissance en soi est quelque chose de contraire à la démocratie. Ce qui me paraît compliqué, peut-être même dangereux, c'est de la considérer comme le moyen systématique de construire la démocratie. Et surtout, il faut être conscient que derrière, il y a un projet politique, idéologique, avec une nébuleuse, des réseaux à très à gauche, qui, d'une certaine manière, veulent aller plus loin que la simple lutte pour la justice. Ils veulent remettre en cause l'ensemble du système démocratique. Mais, il faut en être conscient.
Oui, mais c'est aussi une demande très forte de participation autour de la question de la désobéissance et du renouvellement des pratiques. Et alors, à partir de ce moment-là, le politique est aussi obligé d'apporter un certain nombre de réponses. On voit, par exemple, dans la Ve République, les limites du régime présidentiel. Qu'est-ce qu'on peut amener comme réponse à cela ?
Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, ça n'est pas un hasard si, par exemple, pour la jeunesse, la question de la désobéissance ou de l'indignation, souvenez-vous du livre...
C'est ça, de Hessel,
a beaucoup pesé, a beaucoup ouvert les consciences. C'est parce que le système démocratique tel qu'il est aujourd'hui ne satisfait pas les citoyens qui ont changé, qui ont un rapport à l'autorité différent, qui souhaitent s'exprimer, qui souhaitent être entendus, qui se mobilisent pour des causes. Donc le système démocratique est aussi à l'origine de ces mouvements et il doit apporter une réponse. Si je considère que la désobéissance civile ne peut pas être le mode normal de la démocratie, En revanche, la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas satisfaisante de ce point de vue-là, et il faut en finir avec une forme d'entre-soi. Il faut retrouver une manière de convaincre les citoyens que les politiques publiques que l'on mène sont faites pour eux, avec leur assentiment, et ont des effets, que ces politiques ont des effets concrets et positifs. Je crois que l'un des enjeux que nous avons devant nous, on tourne autour depuis une ou deux décennies, et on voit bien qu'on est à un moment critique de la démocratie, c'est de réussir à reconstituer un esprit civique positif. Parce que la désobéissance civile, elle exprime quelque chose d'évidemment de positif, puisque on se mobilise, on s'oppose à quelque chose qu'on juge négatif, parce qu'on fait de la politique finalement, même si c'est parfois au nom d'une morale personnelle, mais désobéir ne suffit pas. La démocratie, c'est aussi l'obéissance, d'une certaine manière, et de manière éclairée.
Eh bien, je vous propose de terminer notre entretien sur ces mots. Éric Thiers, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
C'était Les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.